dernier sur l'info, le journal
avec MCM,
présenté par Antoine Samoyo.
Bonjour Antoine, on commence par les titres que vous développerez aujourd'hui.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'était l'un des moments les plus attendus de la visite d'Alain Juppé en Polynésie. La rencontre avec les associations de défense des victimes du nucléaire. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac lors de la reprise des essais en 95 a fait son mea culpa. Il a même promis qu'il reviendrait sur la fameuse notion de risque négligeable de la loi Morin s'il était élu. Et il a ouvert la porte à une indemnisation raisonnable pour la CPS. Les associations de leur côté sont restées dubitatives, vous l'entendrez. Le plan d'orientation stratégique pour la politique de la famille a été discuté hier après-midi en commission à l'Assemblée. Trois femmes politiques portent le texte auprès de leurs collègues représentants également. Armelle Merceron, Isabelle Sachet et Eliane Tebahitoua qui ont mis de côté les clivages politiques pour avancer concrètement sur le sujet. On en parle dans ce journal. Et puis à deux jours du Taïto, nous reviendrons sur l'organisation de la course mythique prévue sur la côte Est ce week-end dans le MAC du Taïto. Ce sera en fin de journal. Une course avec des perspectives internationales. Vous l'entendrez. À tout de suite.
Si tu cherches l'intérieur qui inspire le bonheur, si tu veux te sentir en harmonie avec ta vie, on sait bien où trouver les matériaux de qualité, les carrelages, les sanitaires, les peintures de la terre. Le plus grand choix de ce que tu aimes.
On démarre avec la rencontre entre Alain Juppé et les associations de défense des victimes du nucléaire ce matin.
Je viens de vivre là un moment exceptionnel. C'est en ces termes qu'Alain Juppé a débuté le compte-rendu de son rendez-vous très attendu avec les représentants des associations de victimes des essais nucléaires. C'était ce matin au siège de l'église protestante à Paofei. Devant l'église protestante Mauhi, les associations Moro et Tato 193 et Tamari'i Mururoa, l'ancien Premier ministre a fait son mea culpa.
Il faut reconnaître que l'affirmation répétée pendant des années et des années selon laquelle les essais nucléaires ici étaient des essais propres était fausse.
Alain Juppé qui a également souhaité donner à cette reconnaissance un contenu plus officiel, je cite à nouveau, le candidat a repris l'idée d'un centre de mémoire en Polynésie comme l'avait fait le président de la République François Hollande lors de son passage à Tahiti en février dernier. En revanche, il a promis de modifier la loi Morin et particulièrement de supprimer la fameuse notion de risque négligeable d'irradiation qui empêche les indemnisations. Le candidat promet également de regarder quels ont été les impacts de ces essais sur le régime de la CPS pour trouver, je cite à nouveau, une indemnisation raisonnable.
On constate qu'aujourd'hui, la modification qui est proposée, qui consiste à ramener ce risque négligeable de 1% à 0,3%, ne répond pas aux attentes et n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est la raison pour laquelle j'ai dit ici qu'il fallait renoncer à ce principe du risque négligeable et le supprimer dans la loi Morin. Je ne sais pas si ça sera possible sous l'actuelle législature, mais en tout cas, si en 2017 j'ai des responsabilités au niveau national, c'est ce que je ferai. De même, il faut sur le régime de protection sociale de la Polynésie, regarder quels ont été les impacts dans les années passées et trouver la voie d'une indemnisation raisonnable. Voilà.
Et enfin, Alain Juppé qui estime, je cite, que transférer ce débat à l'ONU ne lui paraît pas être une bonne idée.
Et les associations ont accueilli ces promesses avec beaucoup de circonspection.
Le président de Moro et Tato, Roland Eldam, ne se fait pas d'illusions. Pour lui, les promesses d'Alain Juppé sont celles d'un homme politique en campagne. Il lui en faut plus. Roland Eldam attend maintenant des actes et le pardon officiel de la France.
Je sais que les hommes politiques ont un certain langage quand ils sont en campagne. Et une fois ils sont élus, ils n'ont pas toujours le même langage. Alors, j'attendrai, s'il devient président, c'est là qu'on lui rappellera les promesses qu'il a faites aujourd'hui. Les bonnes déclarations comme ça ne suffisent pas. Nous demandons des actes par rapport aux problèmes de santé qu'a causé le nucléaire, l'environnement et le reste. J'ai posé la question de pardon. Je leur ai dit qu'au fond de moi et au fond de beaucoup de Polynésiens, il y a encore cette idée-là, cette attente-là que l'État français pose un genou par terre et demande sincèrement, humblement, pardon aux Polynésiens.
Est-ce que ce genou à terre, Alain Juppé l'a posé ?
Je ne sais pas, il a commencé à parler déjà de mea culpa. Peut-être qu'il y a un début de volonté de demander pardon.
Vous n'êtes pas convaincu ?
Pour le moment, pas encore.
Roland Eldam qui annonce que les associations de défense des victimes des essais nucléaires vont maintenant profiter de cette période électorale justement pour faire pression sur l'État.
Et d'ailleurs, hier, Gaston Flosse avait envoyé une lettre ouverte à Alain Juppé, principalement sur le nucléaire.
Gaston Flosse qui a finalement réagi au refus d'Alain Juppé de s'afficher à ses côtés et de le rencontrer durant sa visite en Polynésie. Le leader du Tauera a adressé une lettre ouverte mardi soir au candidat à la primaire de la droite et du centre pour la présidentielle. Une lettre dans laquelle l'ancien président du pays écrit sa version assez édulcorée de la vie politique locale depuis 2013 et va même jusqu'à se faire le porte-parole des défenseurs des victimes du nucléaire. Il transmet en fait à Alain Juppé la résolution très opportune qu'il avait présentée en 2014 pour savonner la planche à Édouard Fritch et demander à l'État une indemnisation pour les essais nucléaires. Gaston Flosse qui tacle également l'ancien Premier ministre déclarant, je cite, « Votre passé judiciaire ne vous place pas au-dessus des déboires que je traverse et ils ne font pas de vous pour autant quelqu'un d'infréquentable. »
Social à présent avec la future politique de la famille discutée hier en commission.
Les membres du comité de pilotage du plan d'action en faveur de la famille étaient réunis hier après-midi pour la présentation du plan d'orientation stratégique pour la politique de la famille. Le dossier de la famille a été présenté par les trois rapporteurs de la commission de la solidarité que sont Eliane Tevahitoua, Isabelle Sachet et Armelle Merceron. Trois élus investis dans le social qui ont également participé au COPIL et mis de côté leur opinion politique, comme explique l'élu UPLD Eliane Tevahitoua.
La situation sociale est telle que il faut fixer un plan par rapport à la famille. Et donc, dans ce cas bien particulier, nous avons mis de côté nos différences un peu idéologiques pour nous concentrer sur ces problèmes essentiels.
Les trois représentantes qui annoncent qu'elles veilleront auprès des élus à la mise en œuvre concrète du plan d'action. Pour cela, il faut que la famille soit au centre de toutes les décisions des élus et des ministères, comme insiste Armelle Merceron.
Nous progresserons sans que cela coûte beaucoup plus cher si nous décloisonnons des responsabilités et faire en sorte que tout décideur, communal, chef de service, ministère, quand il prend une décision, à chaque fois, ce soit d'abord posé la question, est-ce que ça, c'est bon pour la famille? Est-ce que ça va dans le sens des familles? Qu'est-ce que je peux, dans ma décision, apporter aux familles?
Le rapport du COPIL est à la disposition de tous les élus. Armelle Merceron attend que les débats en assemblée plénière pour que chaque parti politique puisse apporter sa vision. Pour autant, l'élu est consciente que le plan d'action bouleverse un certain nombre de dispositions économiques, notamment sur l'alcool ou la liste des produits de première nécessité. Mais il faut avoir le courage politique de traduire cela en réalité, affirme l'élu du RMA.
Maintenant, il faut avoir effectivement tous le courage politique de traduire ça en réalité. Et c'est vrai qu'il y a des mesures qui peuvent être pour certaines coûteuses ou d'autres qui peuvent remettre en cause des situations acquises. Et puis, il y en a qui peuvent déranger un petit peu. Voilà, parce qu'on change des choses qui sont à l'origine de dysfonctionnement de notre société.
Quoi par exemple ?
Par exemple, en matière d'alcool, consommation et vente d'alcool, il faut sans doute prendre des mesures qui vont éviter les drames, sans évidemment négliger tout le volet préventif.
Il est midi 8, vous écoutez Radio 1, le journal revient dans un instant. Merci pour votre fidélité. Ah.
Premier sur l'info.
On reprend avec l'arrivée d'un nouveau directeur de l'IEOM qui n'est pas un inconnu aux Finnois, Antoine.
Après un mois à assurer l'intérim du directeur de l'Institut d'émission d'Outre-mer en Nouvelle-Calédonie, Claude Perriou a pris ses fonctions de directeur de l'IEOM en Polynésie française. L'IEOM, je vous le rappelle, qui est responsable de la mise en service de la monnaie en Polynésie et qui réalise également différentes analyses économiques sur le pays. Et il faut savoir que si Claude Perriou arrive de l'AFD, l'Agence française de développement, où il a travaillé notamment à La Réunion ou dans l'océan Indien, eh bien l'économiste a débuté sa carrière à la Banque Socredo, c'était en 1978. Claude Perriou a même été directeur général adjoint de la Banque Socredo en 87 et président de son conseil d'administration jusqu'en 2010.
Sport à présent, à deux jours de l'événement, on ouvre notre mag consacré au Tahito.
Radio 1, TRFM et Van News Tahiti présentent le Tahito, le mag.
Et nous vous en parlions dans notre précédente édition du programme de cette course qui est entrée dans la légende. Place maintenant au futur avec le Tahito Pacific Tour dont l'idée avait déjà été évoquée mais elle est maintenant officielle. Hier, en marge de la présentation de notre Tahito, le promoteur de la version calédonienne de la course, Nicolas Dabin, l'organisateur du Tahito à Tahiti, Charley Maitere, et la présidente de la Fédération internationale de Va'a, Lara Collins, ont tous trois signé une lettre d'intention pour la mise en place du Tahito Pacific Tour, une compétition dont la première édition devrait se dérouler en 2017 avec trois étapes au programme. En février, la première course sera organisée en Nouvelle-Zélande, en mai en Nouvelle-Calédonie et en juin en Polynésie française. L'idée est de promouvoir le Tahito dans le Pacifique avant de décliner le concept en 2020 avec le premier Tahito World Tour. C'est ce que nous explique Lara Collins.
Le Teaito
World Tour, c'est l'idée de développer le Teaito et de promouvoir le Va'a dans d'autres pays. Nous avons déjà la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti et l'Italie. Peut-être 8 ou 9 pays ont déjà un Teaito. Donc on voudrait essayer de faire un circuit pour que les rameurs puissent faire des compétitions tout autour du monde. Quelque chose de similaire au circuit mondial de surf ou quelque chose comme ça.
Le Tahiti World Tour, tel que prévu, comportera 6 étapes, 2 en Océanie et les autres en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et en Europe. Là encore, l'idée est d'étendre la pratique du Va'a à l'international.
En Australie, cette année au championnat du monde, nous avons eu 23 pays. L'objectif pour Tahiti 2018, c'est d'en avoir 30. Et c'est réalisable. Chaque année, ce sport se développe de plus en plus. Le mois dernier, j'étais au Japon. Ils ont 11 clubs qui font des compétitions de Va'a. En Europe, en Amérique du Sud, tout autour du monde, c'est comme tous les sports. Si les gens aiment, ils encouragent leurs amis et plus de monde à pratiquer. Et ça grandit très vite partout. C'est ça qui est excitant.
Et sachez qu'avec le Tahiti World Tour, la Fédération internationale espère bien faire reconnaître le Va'a comme discipline olympique également.